Réforme. Développement. Impact. Centre Zoé.
Alléluia. Je t'invite à venir avec moi dans Jacques, chapitre 1, les versets 23 à 25. C'est là que je vais commencer à introduire mon propos de cet après-midi. Et le Seigneur a une excellente parole pour nous. Vous savez, la parole de Dieu est toujours excellente, hein, toujours bonne. Et quand nous la recevons dans un terrain favorable et disposé, alors il vient manifester sa puissance et sa fidélité envers nous. Alors Jacques, chapitre 1, verset 23. Il est écrit, « Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Peut-être que vous connaissez un peu ce verset, vous dites, oulala, encore, mettre en pratique la parole, ça y est, on sait qu'il faut le faire, et on connaît tout ça. Mais ce soir, je voudrais vous rafraîchir cette notion en vous, et vous savez, on ne fera jamais assez de répéter l'importance de la parole de Dieu dans notre vie. Et s'il y a bien une chose que j'ai découverte au fil des années, et que chaque chrétien devrait garder régulièrement et se rappeler régulièrement, c'est que la parole de Dieu dans notre vie, c'est absolument fondamental et elle est absolument irremplaçable. On peut faire beaucoup de choses et on peut même aller à l'église et pratiquer différentes choses, mais si nous n'avons pas une relation personnelle, intime avec la parole de Dieu, et si la parole de Dieu ne demeure pas en nous, ça ne va pas changer grand-chose à nos vies. Il ne va pas se passer grand-chose. Et l'Écriture ici nous montre que quelqu'un qui lit ou qui entend la parole et qui ne la pratique pas est semblable à quelqu'un qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie comment il était. Et je ne sais pas pour vous, mais je pense qu'on a tous à peu près les mêmes habitudes ou les mêmes pratiques avant d'aller quelque part. En général, on se prépare. Et souvent, on se met face à un miroir. Et en général ou en principe, si on se met face au miroir, c'est pour effectivement faire le constat de ce dont nous avons l'air. Mais plus que seulement de faire un constat, l'idée c'est d'agir, de faire quelque chose par rapport à ce que nous avons vu. D'accord ? Si je me regarde dans le miroir et que je suis complètement décoiffé, alors bon, je suis pas toujours forcément, enfin, tout dépend de la notion du coiffé ou décoiffé, mais si je me regarde dans le miroir et que mes cheveux sont complètement en désordre, et que je regarde, je dis ok, puis je m'en vais et je fais autre chose, et puis je sors et puis je vais vaquer à mes occupations, bah, je vais rester pareil, je vais toujours avoir les cheveux défaits. Mais à un moment, si je vais devant le miroir, c'est pour me rendre compte que peut-être mes cheveux sont défaits et qu'il faut faire quelque chose. Et donc, je vais prendre les outils à ma disposition et je vais faire quelque chose de sorte que mes cheveux aient l'air moins défaits. D'accord ? Si je vois que peut-être j'ai besoin de me raser, eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? On ne se met pas juste devant le miroir en disant « Ah oui, j'aurais besoin de me raser » et puis on part, on fait autre chose. On va se raser. D'accord ? C'est très simple. Hein. En général, quand on se met donc face à un miroir, ce n'est pas juste pour constater quelque chose, mais c'est aussi pour agir conformément. Et la parole nous dit que celui qui ne met pas en pratique la parole, eh ben c'est comme s'il venait devant le miroir et qu'il dit « Oui, je suis mal rasé, je ne suis pas coiffé, je suis peut-être sale », et puis qu'il s'en va et qu'il va à ses occupations comme si de rien n'était. Hein. Et c'est ce qui se passe quand nous venons dans la parole de Dieu et que nous ne la pratiquons pas. Mais au-delà juste du fait de dire « faut lire et puis faire ce qui est écrit », lorsque nous n'adoptons pas la position que nous donne la parole de Dieu à notre sujet, ça revient à pas la pratiquer. Quand la parole de Dieu dit quelque chose à mon sujet, en fait, je viens devant la parole qui est ce miroir. Et je vois dans ce miroir, et c'est ce qui est merveilleux avec la parole de Dieu, c'est que dans ce miroir de la parole de Dieu, je ne me vois pas tel que je suis. Ou du moins, si je me vois tel que je suis, c'est pour que je puisse me corriger et poser les actions nécessaires de telle sorte à devenir celui que Dieu dit que je suis. Parce que la parole déclare qu'en Christ, nous sommes une nouvelle créature. La parole déclare que les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et quand je lis la Bible, je peux voir que Dieu dit que je suis fort, Dieu dit que j'ai été favorisé dans le bien-aimé, Dieu dit que j'ai été béni de toute bénédiction dans les lieux célestes, Dieu dit que ceux qui s'attachent à la parole de Dieu, qui la pratiquent, qui la méditent jour et nuit, réussissent dans leurs entreprises. La parole de Dieu déclare que mon Dieu pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ, etc. Donc quand j'arrive face à la parole de Dieu, non seulement je vois ce que je suis aujourd'hui, mais je lève les yeux et je vois ce que Dieu dit à mon sujet dans cette parole. Et donc je ne vais plus seulement m'enlever de ce miroir et puis rester comme j'étais, faible, pauvre, dans le manque, dans la difficulté. Mais en ayant vu où j'en étais, je vais maintenant faire le nécessaire pour que ce que Dieu dit de moi dans ce miroir devienne ma réalité. Et que lorsque je me présenterai la prochaine fois devant le miroir, ce soit satisfaisant, ce soit conforme à ce que Dieu dit de moi. Est-ce que vous saisissez l'image que nous donne la parole de Dieu ici? Et Arsène, tu peux nous mettre l'image. J'ai voulu prendre une illustration que vous avez peut-être croisée sur Internet une fois ou l'autre, mais qui m'a paru tellement pertinente par rapport à ce que je voudrais partager avec vous cet après-midi. Et c'est juste une image très simple, mais pourtant qui peut être parlante. Et ce chaton, s'il veut bien revenir, qui se regarde dans un miroir, et en fait le reflet qu'il voit, c'est pas juste un petit chaton qui paraît fébrile et faible, même si c'est tout mignon, hein, un petit chaton. Et permettez-moi un instant de fantaisie, mais très souvent, le chrétien évangélique est tout mignon comme un petit chaton qui miaule de temps en temps et qui vient faire des câlins. Mais la parole de Dieu déclare tellement d'autres choses à notre sujet. Et ce petit chaton qui est face à ce miroir, il ne voit pas juste sa propre image de ce qu'il est aujourd'hui, mais il voit un lion. Il voit quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus puissant, de beaucoup plus influent, de beaucoup plus imposant. Et en fait, non seulement il voit son reflet, mais il voit, il n'est pas tellement question de son apparence ou de ce qu'il est aujourd'hui, il est plus question de son attitude. C'est-à-dire que finalement, dans cette image, on veut nous montrer, mais peu importe ce que tu peux être physiquement ou dans la réalité de maintenant, ce qui importe, c'est ton attitude, c'est comment tu te vois à l'intérieur. Et plus encore que de dire comment je me vois à l'intérieur, ce qui importe, c'est comment Dieu me voit. Et comment savoir comment Dieu me voit? En regardant dans le miroir. Évidemment, pas juste ce miroir-là, mais le miroir de la parole de Dieu, dont Jacques nous parle ici. Il nous dit, si quelqu'un entend la parole, c'est comme s'il venait devant un miroir et qu'il oubliait comment il était. Mais nous n'avons pas besoin d'être de ceux qui vont devant le miroir de la parole de Dieu et puis qui continuent de vivre comme ils vivaient avant. Si vous venez devant le miroir de la parole de Dieu et au lieu de voir un chaton, vous voyez un lion, et que vous dites « Alléluia, gloire à Dieu !» mais que vous repartez, que vous vivez toujours comme un petit chaton qui court, qui a peur au moindre bruit, vous n'avez pas besoin de vivre comme ça. Si Dieu, dans sa parole, et si le miroir de la parole nous renvoie l'image d'un lion plutôt que celle d'un chaton, c'est pour que nous commencions à nous habituer, à nous imprégner de l'idée, de la pensée, de la réalité, de ce que nous sommes vraiment en Christ, et que nous commencions à vivre comme tel. Si nous regardons la parole et que nous disons « Ah, c'est bon, c'est super » et parfois on peut entendre la parole et c'est bon, et on va applaudir, on va crier « Alléluia » et tout ça, mais qu'on continue à vivre misérablement, eh bien c'est comme si on était venu devant le miroir et qu'on avait oublié comment on était. Mais nous n'avons pas besoin d'oublier comment nous sommes. Et cet après-midi, je voudrais vous rappeler comment vous êtes. Et je voudrais vous inviter et nous inviter à nous rappeler comment nous sommes et aussi souvent que possible et que nécessaire à venir devant le miroir. Alors oui, allez devant votre miroir à la maison pour avoir belle apparence, mais plus encore, allez devant le miroir de la parole de Dieu et regardez l'image qu'elle vous renvoie. Dieu est capable d'accomplir des choses tellement extraordinaires et la parole nous montre que non seulement Dieu nous a pris tel que nous étions et puis nous dit « bon, ben, je vais m'occuper de vous et je vais vous garder tout cela, même si ça fait partie de la promesse ». Mais la parole de Dieu regorge de promesses et regorge de perspectives victorieuses, de croissance, de grandeur, de transformation, parce que Christ a mis en nous la nature divine. Christ a déposé en nous tout ce qui était nécessaire pour que nous puissions grandir, nous développer spirituellement, jusqu'à devenir, la parole déclare, conforme à la stature parfaite de Christ. Donc nous sommes supposés grandir, être transformés, et cela ne se fera pas par nos propres forces, mais l'un des moyens par lequel nous pouvons grandir et progresser dans cette transformation et devenir ce que Dieu voit de nous, eh bien c'est en nous plaçant face au miroir de la parole de Dieu. Et lorsque nous sortons de la présence de ce miroir de la parole, nous n'oublions pas ce que nous avons vu, mais nous nous mettons à croire, à penser, à déclarer, à agir et à vivre conformément à l'image que nous avons vue dans le miroir. Amen. Alléluia. Maintenant, c'est vrai que dans la vie, on va rencontrer des situations diverses et qui ne vont pas toujours dans le sens de ce que nous avons vu dans le miroir, si je peux me permettre de garder cette expression. souvent des difficultés qui se présentent. Et certes, nous avons la promesse de Dieu. Certes, nous avons sa parole qui dit des choses à notre sujet, au sujet de tous les domaines de notre vie. Mais ce n'est pas forcément ce qui arrive tous les jours. Mais à ce moment-là, ce que Jésus nous invite à faire, c'est revenir devant le miroir et regarder ce qu'il dit de nous, ce qu'il dit de nos situations. Quelle est sa vérité à notre sujet? Et finalement, si on veut un titre cet après-midi pour le message, ce serait « Lève les yeux et regarde ». Lève les yeux et regarde. Lève les yeux et regarde. Ésaïe 40, verset 26. Je vais vous citer plusieurs écritures et on va juste en prendre quelques-unes en passant, mais vous constaterez en lisant la parole de Dieu que régulièrement, Dieu lui-même va demander à ses serviteurs et à son peuple de lever les yeux. Il leur dit, regardez pas juste vos circonstances présentes, mais levez les yeux et regardez. Ésaïe 40, verset 26. Il est écrit, levez les yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses et qui fait marcher en ordre leur armée? Il est question des étoiles et de la création. Il les appelle par leur nom. Et par son grand pouvoir et par sa force puissante, il n'en est pas une qui fasse défaut. Et en fait, ici, Dieu appelle son peuple et nous appelle à lever les yeux et à regarder, à contempler sa grandeur, sa puissance, sa magnificence. Plutôt que de garder les yeux sur notre présent, sur notre quotidien, sur ce qui ne va pas, sur les difficultés, sur les manques, sur les faiblesses et tout le reste, plutôt que peut-être nous voir juste comme nous sommes parfois petits chatons, levez les yeux et regardez sa grandeur. Regardez sa puissance. Regardez à l'Éternel qui est celui qui soutient le monde par sa parole. Pardon. Hébreux 12, versets 1 et 2. Hébreux 12, verset 1er. Nous donc, puisque nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Verset 2. Ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Donc ici, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous exhorte à courir notre course en ayant les regards sur Jésus. Et de la même manière que Dieu lui-même dans Ésaïe disait « Levez les yeux, regardez !» Ici, l'apôtre Paul, enfin du moins on considère que c'est l'apôtre Paul qui a écrit l'Épître aux Hébreux, c'est pas précisé, mais il y a de fortes possibilités que ce soit le cas, il nous dit « Ayez les regards fixés sur Jésus ». Donc peu importe que ce que nous disent nos circonstances présentes, peu importe les difficultés que nous pouvons rencontrer, ou même les limites et les faiblesses que nous pouvons expérimenter et connaître, Dieu nous dit « Levez les yeux, regardez à la grandeur de Dieu, regardez à celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, regardez à celui qui a fait la promesse et qui est fidèle pour l'accomplir. Levez les yeux, ne garde pas tes yeux sur tes circonstances présentes, mais lève les yeux et regarde, parce qu'il y a une autre réalité. » Et en fait, plus qu'une autre réalité, il y a la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est ce que Dieu dit à ton sujet. La vérité, c'est ce que Dieu dit de ma situation. Mes circonstances me parlent d'une réalité. Et certes, nous vivons tous dans un monde réel, et loin de moi l'idée ici de dire, nier tout ce qui se passe, et vivez dans votre bulle, on a la tête en l'air, dans les nuages, etc. Non, mais Dieu nous dit, levez les yeux et regardez. Regardez à moi. Les regards sur Jésus. Regardons à l'Éternel lui-même. Et quand nous regardons à lui, nous pouvons voir aussi et regarder à sa promesse, à l'héritage qu'il nous a acquis en Jésus-Christ. Genèse 13, verset 14. Dieu dit à Abraham. Genèse 13, 14. Encore une fois, on retrouve cette expression. Lève les yeux et du lieu où tu es, regarde. Regarde vers le nord, le midi, l'orient, l'occident, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Et en fait, ici, Dieu reprend une promesse qu'il avait déjà faite à Abraham et il vient lui confirmer et il vient l'appeler à lever ses yeux, à regarder. Abraham vient de sortir d'une épreuve, la séparation d'avec Lot. Et avec qui ils venaient de se séparer parce qu'ils étaient devenus trop nombreux et Ça peut nous paraître étonnant, mais l'Écriture dit que c'est devenu trop prospère. C'est devenu tellement prospère, Dieu les avait tellement bénis qu'ils étaient trop nombreux. Ils avaient trop de troupeaux, il y avait trop de monde pour qu'ils restent ensemble. Et Lot a voulu se séparer, donc ils ont pris la décision de se séparer. Et Abraham a laissé le choix à Lot, quel terrain veux-tu, où veux-tu aller ? Évidemment, l'histoire nous dit qu'il y avait un terrain verdoyant et qui paraissait agréable et bien mieux agrémenté, et puis un terrain qui avait l'air bien plus désertique et moins agréable. Et Lot venait de choisir le meilleur terrain. Et voilà Abraham qui se retrouve là avec la promesse d'être père d'une grande nation, avec la promesse d'avoir un territoire pour sa descendance, et qui a vu la fidélité de Dieu et ses bénédictions grandir. L'Écriture dit aussi qu'il était extrêmement riche. Et voilà qu'il vient de se séparer d'avec Lot, et Lot a pris le meilleur chemin. Et Abraham devait se trouver là en disant, bon, c'est bien tout ça, mais il ne me reste plus qu'une terre désertique, et je vais emmener ma famille, ceux qui sont avec moi dans ces endroits-là, et finalement, qu'est-ce qui va se passer ? Et Dieu lui dit, Abraham, lève les yeux et regarde. Le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et ta postérité. Et ensuite, il lui rappelle encore, et tu seras père d'une grande nation. Ta postérité sera nombreuse comme la poussière de la terre. Donc certes, on peut traverser des épreuves, des difficultés, mais quand nous y sommes, Dieu nous appelle, dit, regarde pas juste où tu en es maintenant, en disant, ouais, mais c'est vrai, Dieu m'avait promis, et peut-être qu'à un certain niveau, on a déjà été béni, et on a déjà commencé à goûter à la promesse de Dieu, et on se dit, ouais, là, c'est bon, et puis arrive un moment où, tout d'un coup, il se passe quelque chose qui fait que, on a l'impression qu'il n'y a plus rien, que ça s'est arrêté en route, on se dit, mais comment est-ce que ça va se finir, cette histoire? Comment est-ce que, finalement, ce que Dieu m'a dit va arriver? Ou pire encore, on pourrait mettre en question la promesse de Dieu. À ce moment-là, Dieu dit, hé, Abraham, lève les yeux. Regarde pas par terre, regarde pas en bas. Regarde pas les réalités juste qui sont autour de toi. Ne regarde pas qu'aux choses terrestres. Ne regarde pas jusqu'à tes propres raisonnements, tes propres ressources. Ne regarde pas les choses de la terre. Lève les yeux et regarde devant toi. Regarde plus loin. Regarde à ma promesse. Je te donne le pays en héritage. Galates 5, verset 16 nous dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Romains 4, 19 nous dit qu'Abraham n'a pas considéré que son corps était déjà vieux quand Dieu lui a fait la promesse, mais il a cru, il a espéré contre toute espérance. Donc plutôt que de regarder les obstacles, les limites, les choses impossibles, l'Écriture nous appelle et Dieu nous appelle à travers là à lever nos yeux. Ne considère pas ce qui n'est pas possible. Ne considère même pas où tu en es aujourd'hui. Et même si oui, nous devons être sages, et l'Écriture nous engage à réfléchir, si quelqu'un veut bâtir une tour, qu'il regarde d'abord s'il peut finir, sinon il risque d'être un sujet de confusion. Mais en même temps, Dieu nous dit, ne te fie pas seulement à ce que tu vois maintenant. Ne te fie pas seulement à là où tu es maintenant. Ne fie pas seulement à tes ressources, mais lève les yeux et regarde. Ne considère pas seulement les choses de la terre, considère la promesse de Dieu. Considère premièrement, celui qui a fait la promesse. Regarde l'Éternel, celui qui tient le monde dans ses mains, qui fait que tout l'équilibre fonctionne, celui qui a tout créé. Regarde à Jésus, qui est l'auteur et le rémunérateur de la foi. Et puis regarde à la promesse, plus qu'à tes réalités présentes. Au lieu de te focaliser sur les choses de la terre et sur les choses charnelles, focalise-toi sur les choses de l'esprit. Je vais le citer en passant, marchez par l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous savez, l'un de nos plus grands ennemis, si ce n'est pas notre plus grand ennemi, à notre vie spirituelle et sur la terre, c'est ce qu'on appelle la chair. C'est ce qui en nous s'oppose à la volonté parfaite de Dieu. Et le plus grand, ou au moins l'un des plus grands combats que nous ayons à mener, c'est celui par rapport à notre chair. Celui d'assujettir notre chair. Celui de dépasser et de surmonter ce qui en nous s'oppose à la pensée, à la volonté de Dieu. Mais l'Écriture nous dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et bien souvent, là où nous nous faisons avoir, c'est que nous essayons de ne pas être charnels dans l'espérance de peut-être pouvoir marcher par l'esprit. Et finalement, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons les yeux baissés sur nous-mêmes, les yeux baissés sur notre propre personne, et nous regardons à la chair, et nous regardons à ce qui ne va pas. Et même si nous le faisons avec la bonne intention de changer, n'empêche que nos yeux sont fixés sur ce qui n'est pas. N'empêche que notre attention est fixée sur ce qui ne va pas. N'empêche que notre énergie est investie dans ce qui ne va pas. Et ce que nous produisons, et ce que nous reproduisons, malheureusement, c'est la même chose. Et je ne sais pas pour vous, mais j'ai passé des années, à essayer de devenir un meilleur chrétien. et à ne pas y arriver. Et à être peut-être même de pire en pire par moment. Vous savez, j'ai essayé de me défaire de certaines choses au début de ma vie chrétienne, et c'est jusqu'à maintenant, on doit continuer de se sanctifier par période, mais j'ai essayé de le faire en regardant ces choses-là et en faisant tout pour les traiter, de manière à pouvoir dire à Dieu, ça y est, ça s'est réglé, maintenant je peux peut-être être candidat pour marcher par l'Esprit. Mais le problème, c'est que plus j'essayais de résoudre ce problème, et plus je m'adonnais à ce problème-là. Plus j'essayais de régler certaines dépendances, et plus j'allais dans ces penchants-là, et je restais dans ces choses-là, plus je me sentais sale, et plus ça devenait compliqué, c'était de pire en pire. Et un beau jour, en lisant cette écriture, l'Esprit de Dieu m'a, je crois, secoué, et tout d'un coup, c'est apparu. Marchez par l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et là, tout s'est éclairé, je dis, waouh! Marcher par l'Esprit. J'ai dit, ok, alors plutôt que d'essayer de ne pas accomplir les désirs de la chair, finalement, par les moyens et par la force de la chair, ce que Dieu me demande de faire, c'est de marcher par l'Esprit. De chercher les choses de Dieu. D'apprendre comment marcher d'une manière digne du Seigneur Jésus-Christ. Et ce qui est intéressant et extraordinaire, finalement, c'est que non pas que ce soit facile, je ne vais pas vous raconter des histoires, mais n'empêche que les choses deviennent tellement différentes. Quand vous vous affectionnez aux choses de l'Esprit, quand vous cherchez à marcher par l'Esprit, quand vous cherchez à être agréable à votre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, quand vous vous regardez dans le miroir de la parole pour pratiquer et agir selon ce qui est écrit, vous allez vous rendre compte en cours de route que ce qui pour vous était difficile et représentait un grand défi et vous n'arriviez pas à vous en défaire, pardon, eh bien tout d'un coup, vous arrivez à vous en défaire. Tout d'un coup, ces choses-là perdent de l'importance dans votre vie. Plus vous accordez d'importance et d'attention à la pensée de l'Esprit et aux choses de Dieu, et plus ces autres choses-là du monde vont perdre de leur saveur. Et vous n'allez même plus vous battre. Vous savez, il y a un moment, j'ai même plus combattu pour arrêter certaines choses. Je me suis rendu compte que plus j'avais faim et soif et je m'adonnais aux choses de Dieu, et moins j'avais envie de ces choses-là, qui étaient des choses terrestres, des choses charnelles, des choses mauvaises. Donc, plutôt que de se focaliser sur la chair, focalisez-vous, affectionnez-vous aux choses de l'Esprit. Vous savez, ce sur quoi nous mettons l'accent, ce que nous regardons, finalement, c'est ce que nous élevons dans notre vie. Ce que vous considérez, ce que vous contemplez, c'est ce à quoi vous donnez de l'importance, c'est ce que vous élevez dans votre vie. C'est finalement, disons-le, ce que vous adorez, ce à quoi vous accordez votre soumission, votre révérence, votre déférence, votre soumission, vous consacrez à ce que vous regardez, à ce que vous contemplez. À quoi accordez-vous de l'importance dans votre vie? Encore une fois, et je tiens à être équilibré à chaque fois, mais bien sûr, nous devons connaître, et l'Écriture nous enseigne au sujet du monde des ténèbres, pardon, au sujet du diable, au sujet des démons, et toutes ces choses-là, mais elle nous enseigne beaucoup plus sur l'œuvre rédemptrice de Christ, et sur notre position d'autorité en Christ et par l'Esprit de Dieu. Donc, plutôt que de nous focaliser en permanence sur les démons, les œuvres du mal et toutes ces choses-là, il vaudrait bien mieux nous focaliser sur l'œuvre de Dieu, sur l'œuvre de Christ, sur ce que la parole enseigne à notre sujet. Pardon. Et alors nous pourrons marcher dans la victoire. Vous savez, il suffit d'un tout petit élément pour vous cacher l'univers entier. Le soleil peut briller de mille feux. Il suffit que vous preniez juste un tout petit truc, un petit bout de papier comme ça, qui comparé à la grandeur du soleil, c'est pas grand chose. C'est pas grand chose, mais il suffit que vous le mettiez suffisamment près de vos yeux pour qu'il vous cache de plus en plus le monde qui vous entoure, et jusqu'à ce que vous ne voyez plus rien du tout. Et ce n'est pas que le bout de papier soit plus grand ou que le soleil soit plus petit. C'est simplement ce que vous avez choisi de mettre sous vos yeux, ce que vous avez choisi de garder, ce sur quoi vous avez choisi de fixer vos regards. Et de la même façon, certes, des problèmes peuvent se présenter, certes, des difficultés sérieuses peuvent se présenter, mais vous savez quoi? Rien n'est plus grand que ce que Dieu déclare à votre sujet. Rien n'est plus grand et rien ne peut résister à la puissance de Dieu, créateur des cieux et de la terre, qui vous a appelé et qui a déclaré que vous êtes né pour vivre et pour accomplir votre destinée. Celui qui vous a appelé à l'existence avec un but, un objectif, n'est pas impressionné par n'importe quelle difficulté qui puisse se passer dans votre vie. Et vous savez quoi? Il connaît déjà les difficultés qui doivent venir. Et l'Écriture déclare qu'il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Donc qu'est-ce que vous mettez sous vos yeux? Ce n'est pas parce que vous rapprochez le bout de papier de vos yeux qu'il est plus grand et que le soleil est plus petit. C'est simplement que vous, vous êtes positionné, que vous avez choisi une perspective différente. Mais aujourd'hui, choisissons de lever nos yeux et plutôt que de regarder les difficultés, les problèmes qui nous cachent la grandeur et la splendeur de Dieu, de garder les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur et le rémunérateur de la foi. De garder les yeux fixés sur lui, de courir avec persévérance dans la course qui nous est ouverte, quoi qu'il arrive. Plus que les obstacles, plus que les limites, ayons les yeux sur lui. À quoi vous affectionnez-vous? Colossiens 3, verset 2 nous dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non aux choses qui sont sur la terre. » Romains 8, verset 6, il est écrit « L'affection de la chair, c'est la mort. Mais l'affection de l'esprit, c'est la vie. » Donc, à quoi est-ce qu'on va s'affectionner? Qu'est-ce qu'on va regarder? À quoi on va attacher le plus d'importance? L'Écriture nous montre plusieurs exemples frappants de comment la manière dont des gens ont attaché de l'importance aux circonstances ou à la parole de Dieu a fait toute la différence. Et on a ce récit du peuple de Dieu qui était sur le point d'entrer dans le pays de la promesse. Et l'Écriture nous dit que des espions étaient envoyés dans le pays pour voir comment ça se passait. Et tous ces espions sont revenus en disant que le pays est bon, il y a des fruits, il y a tout ce qu'il faut, c'est un excellent pays. Mais il y a des géants. Et une partie des espions se revient en disant, il y a des géants et nous sommes à leurs yeux comme des sauterelles. Autrement dit, c'est vrai, il y a un bon pays qui est là, mais il y a des géants. Et nous, on n'est rien du tout devant, on est trop petits. Ces gens-là ont regardé dans un miroir, mais ont oublié comment ils étaient. Parce que l'Éternel, leur Dieu, leur avait fait une promesse et leur avait dit qu'ils entreraient dans le pays. Mais alors qu'ils ont regardé les circonstances et qu'ils ont considéré seulement ce qu'ils voyaient, oui, ils ont pu réaliser combien le pays était bon et combien il y avait tout ce qu'il fallait, mais ils ont accordé plus d'attention à ces géants. Et du coup, ils se sont vus comme des sauterelles, juste comme un petit chaton de rien du tout, alors que Dieu leur avait donné d'être comme des lions qui allaient entrer dans leur territoire, dans leur héritage. Mais parmi ces espions, il y avait deux personnes, Josué et Caleb, qui eux sont revenus en faisant le même rapport. Ils ont dit, c'est vrai, le pays est bon. Il y a tout ce qu'il faut, c'est excellent. Mais il y a des géants dans le pays. Mais ils se sont pas arrêtés à dire, il y a des géants, donc c'est fini, nous on est trop petits. Il y a des géants dans le pays. Ils ont dit, mais, puisque l'Éternel nous donne le pays, montons et nous rentrerons dans le pays. Montons et prenons notre héritage. Ces deux personnes-là, Josué et Caleb, ont su regarder au-delà des circonstances. Ils ont levé les yeux. Je suis quasiment convaincu que lorsqu'ils sont allés espionner, ils ont vu la même chose que les autres. Des choses très bien, ils devaient déjà se réjouir. En disant, waouh, ça c'est la terre que Dieu nous a promise. Il y a des fruits, il y a tout ce qu'il faut, c'est prospère, on va être bien. Certains même se disaient peut-être déjà, ce coin-là, là, je vais me le réserver, c'est là que je vais mettre ma maison, parce que c'est agréable, il y a un petit cours d'eau, puis je vais pouvoir avoir du terrain, et peut-être avoir deux, trois animaux, et puis cultiver un peu de ces beaux et bons fruits qui sont disponibles dans le pays. Et quand les géants sont arrivés, ils ont dit, ah, ouais, mais il y a des géants. Et ils ont oublié tout le reste. Ils sont revenus en disant, voilà, c'est pas ça. Combien de fois le peuple de Dieu murmurait en disant « Pourquoi est-ce qu'on n'est pas resté en Égypte? C'était mieux là-bas. » Ils n'avaient pas pris l'habitude, ils n'avaient pas compris l'importance de lever les yeux de nos circonstances présentes et de regarder à la promesse et à celui qui a fait la promesse. Mais Josué et Caleb ont vu ces géants aussi. On dit « Ok, mais ces gars-là, ils n'ont rien à faire là parce que là-bas, c'est chez moi. Donc si Dieu a dit que c'était chez moi, j'irai et j'en rentrerai dans mon héritage. » Mais c'est ce que nous sommes appelés et supposés faire. Accorder plus d'importance à la parole de Dieu et à sa promesse qu'à ce que nous disent les circonstances présentes. Et ils sont entrés dans le pays de la promesse. 2 Corinthiens 4, verset 18, Paul nous dit, « Nous regardons non pas aux choses visibles parce qu'elles sont passagères, mais aux invisibles parce qu'elles sont éternelles. » Et les afflictions du moment présent produisent, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Donc à quoi vous affectionnez-vous? Que regardez-vous? Et finalement, mon point central est simple, et c'est finalement le titre de ce message, si on veut, ce soir, c'est « Lève les yeux et regarde ». Et quand tu te regardes dans le miroir, n'oublie pas qui tu es, mais agis conformément à ce que tu as vu dans le miroir de la parole de Dieu. Lève les yeux et regarde. Quand on lève les yeux, on voit plus loin. Et si je regarde là, je vois le bout de mes pieds, je vois à quelques centimètres et éventuellement jusqu'au bout là-bas parce que Dieu m'a doté d'une certaine vision, mais je suis toujours limité. Mais si je lève les yeux, je vois beaucoup plus loin. Lève les yeux, regarde. Quand tu lèves les yeux, tu vois plus loin. Là où tes circonstances présentes ou tes propres ressources ne te promettent pas d'issue favorable, là où tu ne vois pas comment ça va finir, là où tu ne vois pas où ça peut déboucher, Dieu dit, lève les yeux, regarde. Regarde ma promesse, attache-toi à ma parole, lève les yeux, tu verras plus loin. Et alors tu ne marches pas juste en essayant de gérer ton quotidien et en trébuchant de temps en temps parce qu'il y a quelque chose que tu n'avais pas vu, mais quand tu lèves les yeux, tu vois plus loin, tu peux anticiper les choses parce que tu vois la direction dans laquelle tu veux aller. Tu n'es pas surpris, tu n'es pas pris au dépourvu au dernier moment. Quand tu lèves les yeux, tu te redresses et tu te tiens debout. Quand je regarde juste ce qui est devant moi, et si je considère juste ma situation présente, et c'est souvent la caractéristique de quelqu'un qui est soucieux ou qui réfléchit, il regarde par terre, il regarde devant lui. Et très souvent, j'exagère un peu le geste, mais vous allez voir la personne comme ça. Tu commences à être courbé. Et tu commences à même crouler sous la difficulté, sous les fardeaux, et tu vois rien qui puisse sortir, et tu tournes en rond dans ce dans quoi tu es. Mais quand tu lèves les yeux, comme Dieu te dit, et que tu regardes en avant, tu te redresses, tu relèves les épaules, et tu réalises le souffle divin est en moi, parce que Dieu lui-même m'a donné sa vie. Tu réalises, je suis fils, fille de Dieu. Tu réalises, Dieu m'a appelé, il a formé sur moi des projets de paix et non de malheur pour me donner un avenir et de l'espérance. Donc je regarde en avant avec attente, avec espérance, avec avenir. Oui, les circonstances présentes sont difficiles, mais je regarde, je lève les yeux et je regarde à ce que Dieu m'a dit. Je me tiens debout, je suis ouvert à ce qui peut venir. Quand je lève les yeux et que je regarde de l'avant, je m'attends et je suis ouvert à ce qui vient d'en haut. Mais quand je garde les yeux fixés simplement comme ça sur les choses de la terre et que je regarde en bas, je ne fais que voir et voir encore et revoir encore et revoir encore ce qui est là juste terrestre et ce qui n'est pas, ce qui ne m'amènera nulle part. Et pendant ce temps, je ne vois pas ce qui se passe là-bas et je ne vois pas le plafond, je ne vois pas ce qui se passe. Mais si je lève les yeux et je regarde, je commence à être beaucoup plus, à avoir une vision beaucoup plus élargie et beaucoup plus attentif à ce qui se passe autour de moi. Et là, je peux regarder et voir venir les choses du ciel qui ont été disposées pour moi et les saisir avec la main de la foi, comme dit les Écritures. La parole déclare dans Éphésiens 1, verset 3, « Béni soit Dieu, le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Alors tu sais quoi? Regarde dans les lieux célestes en Christ, là où tu as été béni de toute bénédiction spirituelle. Plutôt que de regarder les choses de la terre où il n'y a que le fruit du péché humain, de la dépravation de l'humanité. Tant que tu regardes sur la terre, tu ne verras rien de bon et tu ne peux pas progresser, tu ne peux pas avancer. Lève les yeux, regarde les choses du ciel. Quand on lève les yeux, on prend de l'assurance, on retrouve sa dignité. Vous savez, à un moment, les apôtres se sont rendus au temple et l'Écriture nous dit qu'il y avait un paralysé qui était couché à la porte du temple. Et il était là à demander des choses. Il va recevoir une parole étonnante de la part des hommes de Dieu qui vont lui dire « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. » Et l'Écriture dit qu'à l'instant même, le paralysé s'est levé et qu'il est parti en sautant, courant, en donnant gloire à Dieu. Mais juste avant qu'il ne se passe cet événement, il a reçu une parole de la part des serviteurs de Dieu. Ils lui ont dit « Regarde-nous, regarde-nous. » Alors qu'il devait certainement être prostré dans sa situation à juste demander une pièce, les apôtres disent « Regarde-nous, lève les yeux, lève les yeux. » Et non seulement ils voulaient qu'ils les regardent eux, mais ils voulaient qu'ils lèvent les yeux et qu'ils considèrent autre chose. Ils voulaient qu'ils lèvent les yeux et qu'ils se sentent suffisamment dignes et acceptés pour regarder quelqu'un, d'une part, et pour être secourus. Et l'Écriture dit qu'ils ont vu qu'il y avait en lui la foi pour être guéri. C'est pourquoi ils ont pu lui dire au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et Dieu te dit, lève les yeux, regarde, lève les yeux, regarde. Peu importe les circonstances, peu importe ce que tu traverses, peu importe tes difficultés, peu importe que tu aies pu même faire toutes sortes de plans et d'analyses, et peu importe même que tu aies pu élaborer des plans terrestres pour essayer de t'en sortir. Tu te dis, ça c'est une chose, mais lève les yeux, regarde-moi. Lève les yeux et regarde. quand nous levons vers lui les yeux, la parole déclare que ceux qui tournent vers lui les regards sont rayonnants de joie. La parole déclare que ceux qui placent en lui leur appui ne sont pas dans la confusion. La parole de Dieu déclare qu'il est fidèle pour accomplir ce qu'il a promis qu'il ferait. Et je voudrais terminer avec un exemple d'une situation dans laquelle quelqu'un avait besoin de lever ses yeux, de regarder, de voir, et qui a pu changer complètement sa position. Et ce qui est merveilleux là-dedans, c'est que Dieu lui-même qui nous dit « Lève les yeux, regarde !» en même temps met à notre disposition la grâce nécessaire pour ouvrir nos yeux et que nous puissions voir ce qu'il met devant nous. Il ne nous dit pas seulement « espère » comme si nous devions attendre quelque chose que nous ne connaissons pas, comme si nous devions espérer quelque chose dont nous n'avons rien de quoi nous alimenter. Mais il nous a donné sa parole pour que nous puissions avoir tout ce qui est nécessaire pour notre vie et que comme ce miroir, nous puissions nous voir tel qu'il nous voit. Et au milieu des difficultés, des circonstances ou des épreuves que nous pouvons traverser, il est prêt et disposé à ouvrir nos yeux pour que nous voyions son secours qui est déjà prêt, déjà pourvu. 2 Rois 6, verset 17. 2 Rois 6. Et on a ici un récit du prophète Élisée qui venait d'accomplir des miracles, mais voilà qu'ils sont entourés par toute une foule de gens qui leur ont voulu, qui étaient leurs opposants. Et ici, Élisée se trouve dans cette situation et le serviteur qui était avec lui se trouve complètement dérouté. Et au verset 16, Élisée lui dit « Ne crains pas, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Et au verset 17, voilà ce que fait Élisée. Il pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Alors que le serviteur était dans cette situation désespérée, où il ne voyait qu'une foule d'ennemis qui les entourait, il était en disant, « Mais qu'est-ce qu'on va faire ?» Et Élisée lui dit, t'inquiète pas, ceux qui sont avec nous sont plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Et ce soir, je veux dire à chacun d'entre nous, ne t'inquiète pas, ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont contre toi. Et j'allais même dire, ne t'inquiète pas, celui qui est avec toi est plus puissant et surpasse de loin tout ce qui pourrait venir contre toi. L'Écriture déclare, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ça ne veut pas dire que personne ne viendra jamais contre toi, mais ça veut dire que peu importe qui se présente, de toute façon, ça fera pas le poids face à Dieu qui est avec toi. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui nous accusera? C'est Dieu qui justifie. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, il l'a promis et il l'accomplira. Et alors Élisée va prier, disant, Éternel, ouvre les yeux de mon serviteur pour qu'il voie. Et tout d'un coup, les yeux du serviteur s'ouvrirent. Et le Christ nous dit, il a vu quoi? Les chars et les chevaux de l'Éternel partout sur la montagne. Donc juste dans le monde physique, dans le monde naturel, il ne pouvait voir que ses ennemis qui l'entouraient, qui étaient nombreux. Et qu'est-ce que deux hommes face à toute une foule de personnes qui en veulent à leur vie? Mais là, le Seigneur, à travers Élisée, lui dit, « Lève les yeux et regarde. Reste pas juste fixé là que tu es un petit chaton tout seul au milieu. Reste pas juste fixé là qu'il y a plein d'ennemis autour de toi. Mais lève les yeux et regarde. » Il y a toute mon armée, il y a des chevaux et des chars de l'Éternel tout autour, et ils sont en plus grand nombre que ceux qui sont venus contre toi. Et cet après-midi, mon désir et ma prière pour chacun de nous, c'est que si nous traversons ou si vous traversez des périodes difficiles, ou peu importe le domaine de votre vie dans lequel la promesse de Dieu n'a pas l'air de s'être mise en place ou de se réaliser, ou peu importe ce que peut-être nous avons dans nos cœurs, que nous savons venir de Dieu, être juste, mais c'est comme si ça ne bougeait pas et il ne se passait rien. C'est comme si les choses ne se mettaient pas en place conformément à ce que nous avons reçu, ou comme si ça n'allait pas comme ça devrait, et nous pourrions nous contenter de regarder autour de nous et alors nous poser des questions, ne pas comprendre. Et si nous faisions ça, c'est comme si nous nous étions regardés dans le miroir et que nous avions oublié comment nous étions. Mais ce qu'il nous convient de faire, c'est de lever nos yeux et de regarder. Et peut-être que quelqu'un peut dire, mais moi je ne sais pas, je ne vois pas. Même j'essaye de prendre la parole de Dieu, j'essaye de m'attacher dans la foi, j'essaye de tenir bon, etc. Mais cet après-midi, la grâce de Dieu est disponible. Et ma prière pour chacun de nous, c'est qu'il ouvre nos yeux pour que nous voyions. Et que de la même façon que le serviteur d'Élisée a ouvert les yeux et a vu les chevaux et les chars de l'Éternel tout autour. Vous savez, quand je m'imagine ces choses, je me dis, waouh, mais quelle force, quel réconfort que de voir ça. Et je pense qu'en un seul instant, de sa situation, de sa position, de, disons-le, quasiment de désespoir, je crois, de voir tous ses ennemis en disant, là, c'est foutu. Qu'est-ce que j'ai été me mettre au service d'un prophète? Regardez comment je vais finir. Et tout d'un coup, Dieu ouvre ses yeux, il voit. Waouh, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Ça vous donne une assurance. Et là, le petit chaton, là, il se voit vraiment comme le lion qui est dans le miroir. Parce que la parole de Dieu dit, tu n'es pas un chaton, tu es un lion. La parole de Dieu déclare, tu n'es pas faible et misérable, tu es précieux, tu es choisi, tu es voulu de Dieu. La parole de Dieu dit que le faible dit, je suis fort. Que le pauvre dit, je suis riche. Que celui qui était sans avenir maintenant dise, j'ai un avenir et de l'espérance. Que celui qui est dans des symptômes dise, je suis guéri. Que celui qui est faible, oui, dise, je suis fort. Que celui qui est dans le manque dise, je suis pourvu.